bonjour à tous. Un mineur en révolte contre la corruption, un entrepreneur devenu un milliardaire sans pitié, un travailleur migrant qui se transforme en tireur fou. Voilà quelques-uns des personnages qui peuplent les films du cinéaste Jia Zhangke. C'est une Chine en pleine mutation que sa caméra s'attache à dépeindre avec une attention particulière accordée aux nouveaux riches. Pour qui veut comprendre la Chine d'aujourd'hui, un seul film suffit, A Touch of Sin, prix du scénario à Cannes en 2013, qui rend compte de la brutalité du passage à l'économie de marché. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour ce deuxième épisode de notre série consacrée à la Chine industrielle et aux représentations qu'en offre la fiction, nous avons le plaisir de recevoir Luisa Prudentino, professeure à l'INALCO, à l'Université d'Artois et à Sciences Po et spécialiste du cinéma chinois, et Alain Wang, sinologue, enseignant à l'école centrale Supélec et à l'Institut français de la mode. En fin d'émission, Xavier Martinet nous rejoindra autour de la table avec son journal de l'écho.
Pour quelqu'un qui est né en 1970, eh bien, en 1978, c'était le début de l'ouverture de la Chine sur le plan économique. Avec le début des années 80, il y a eu également une ouverture sur le plan de la pensée, sur le plan spirituel. Et il y a eu, jusqu'en 1989, beaucoup de mouvements politiques différents, qui ont tous eu leur influence sur les individus. Mais quand j'ai commencé à passer à la réalisation, à faire du cinéma, ces mouvements s'estompaient pour laisser place à des mouvements économiques et à une évolution fulgurante sur le plan de l'économie. Et puis, ce que j'observais, c'est que ces mouvements économiques avaient leur penchant et leur côté politique. Donc, c'était tous ces agencements, tous ces rapports entre les choses qui sont devenus des centres d'intérêt pour moi. Et surtout, ce que ça venait modifier au niveau des rapports entre les êtres humains.
Luisa Prudentino et Alain Wang, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors nous ouvrons cette émission avec la voix de Jia Zhangke au micro de Laure Adler sur France Inter. C'était le 28 février 2019, au moment de la sortie de son dernier film, Les Éternels. Luisa Prudentino, est-ce que vous pourriez d'abord nous présenter Jia Zhangke en quelques mots et nous dire surtout la place qu'il occupe dans le cinéma chinois contemporain?
Oui, bien sûr. Alors Jia Zhangke, c'est quelqu'un qui, bizarrement, a été beaucoup plus connu chez nous avant de l'être en Chine. Et pour cause, puisque Jia Zhangke est le représentant, enfin a été le représentant, parce que les choses ont évolué depuis, a été le représentant du cinéma indépendant, c'est-à-dire le cinéma qui se développe au-delà des structures officielles. Donc forcément, ça veut dire que c'est le réalisateur de films qui ne sont pas vus en Chine de façon normale, si je puis dire, donc distribués dans les salles, mais ils sont vus éventuellement sur des à travers des DVD ou de toute façon de tout ce qui peut être piraté et qui ne circule pas de façon officielle.
Ça a été le cas jusqu'à une certaine date, jusqu'à 2002 je crois.
Alors c'était le cas effectivement jusqu'à 2004 précisément, à un moment où on croyait que la censure voulait vraiment jouer le jeu et donc donner un tout petit peu un changement, parce que c'était quand même assez paradoxal de savoir que des réalisateurs chinois étaient représentants d'un cinéma qui ne pouvait pas être vu en Chine et donc ils étaient au contraire connus et reconnus à l'étranger. Donc on a cru que le bureau de la censure avait organisé cette rencontre avec les cinéastes indépendants justement pour essayer de trouver un moyen d'une certaine harmonie et donc le fait de les faire rentrer dans le système, c'était aussi une façon de leur garantir de pouvoir continuer à tourner comme ils le faisaient avant, mais justement pour essayer de trouver un moyen. Et on a su après que c'était pas tout à fait ça. Alors, c'était pas des bonnes intentions, on va dire.
Alors, on va y venir, mais effectivement, son film The World est distribué en Chine en 2004, mais ensuite en 2013, Touch of Sin, sur lequel on va revenir, bien sûr, a été autorisé, puis à nouveau interdit. Le fait que désormais, Jia Zhangke n'est plus un cinéaste clandestin, Alain Wang, est-ce que ça a eu pour effet, après justement A Touch of Sin, qui est peut-être l'un de ses films les plus critiques, est-ce que ça a eu pour effet peut-être d'adoucir son discours et sa critique de la Chine contemporaine ?
Moi, je pense que c'est un peu comme tous les cinéastes de cette période. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de censure, il y a de plus en plus de contrôle. Donc, soit on reste en Chine, soit on la quitte. Je dirais, c'est un petit peu la situation actuelle. Donc, le fait que certains restent en Chine, ils sont obligés quand même de se plier à la censure locale.
Jia Zhangke veut changer le système de l'intérieur, Louisa Prudentino ?
Alors oui, mais on lui souhaite du courage, hein, surtout en ce moment. En fait, il a toujours été convaincu que la meilleure façon de combattre le système, c'est de le combattre à l'intérieur même. Donc c'est d'y adhérer, enfin entre guillemets, hein, adhérer en espérant après pouvoir apporter des changements de façon, on va dire, plutôt douce. C'est ce qui était probable. Enfin, quand ça a été annoncé en 2004, tout le monde a cru que finalement c'était possible, on va dire. Et puis finalement, c'était juste une manœuvre pour essayer de les attirer le plus possible à l'intérieur du système.
Alors, ce que Jia Zhangke dépeint, c'est un pays engagé dans la course au profit. Et cela, Alain Wang, depuis l'ouverture économique de la Chine, décidée par Deng Xiaoping en 1978. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte?
Alors, faut juste rappeler qu'avant 1978, on est dans une Chine où ce qui compte, c'est plutôt l'idéologie et le politique. Donc les gens sont plutôt, je dirais, catégorisés en fonction de... Ils sont plus communistes ou moins communistes. À partir de 1978, Deng Xiaoping va ouvrir le pays et va lancer ce qu'on appelle les quatre modernisations, avec la capacité, on va dire, de tout le monde de se lancer dans les affaires, de se lancer dans le grand bain, c'était un petit peu se lancer à l'eau. Et donc à partir de ce moment-là, on va avoir énormément de gens un peu partout en Chine qui vont commencer à créer à récupérer, on va dire, des entreprises qui existaient, souvent des entreprises de bourri-village plus petits, et à travers lesquelles ils vont eux-mêmes créer des entreprises privées et se développer. Bon, au début, c'est un petit peu anarchique. Hein. Faut bien se rendre compte que les choses vont commencer véritablement à être un petit peu plus organisées à partir de 2005-2006. On va dire les années 90, on est un petit peu, je dirais, dans le Far West du business.
Alors justement, revenons quelques années en arrière, puisque ce désir de richesse, on le retrouve dans l'un des films de Jia Zhangke, Au-delà des montagnes. Le film est sorti en 2015, mais l'intrigue se passe à la toute fin des années 90. Et dans le film, la jeune Tao hésite entre ses deux prétendants, dont l'un, entrepreneur, gagne beaucoup plus d'argent que l'autre.
Comment tu me parles là? Tu nous donnes des ordres maintenant que t'es riche? Ça te monte au cerveau?
Viens dehors, allez quoi!
Allez quoi!
Rien ne m'arrête, je suis libre comme l'air! Et regarde, c'est ma voiture!
Waouh! Un rouge qui se voit de loin! T'aimes bien frimer, on dirait!
Non, rien à voir!
Elle est belle! Faut reconnaître, elle est super classe.
Ouais, l'idéal pour foncer vers une ère nouvelle.
T'as intérêt à nous emmener faire un tour, hein, je te préviens.
Ok. On n'a qu'à aller à Hong Kong. Ça ferait une chouette virée. Hong Kong? Aucun intérêt, c'est naze. Non, je vais vous emmener en Amérique. On va aller claquer des dollars.
Révise ta géo, pour aller en Amérique, il faut que tu traverses le Pacifique.
Eh, c'est pas mon truc, la géo. Tu n'auras qu'à me donner des cours particuliers. Ok, prof Tao?
Oublie l'Amérique. Cette année, la Chine doit récupérer Macao. On irait bien voir Macao, nous. Hein, Liangzi?
Tu ferais ça? Vendu. Je m'occupe de tout. Promis.
Ce que montre le film, qui s'étend sur une période d'une quinzaine d'années, Louisa Prudentino, c'est cette montée des inégalités, cette polarisation qui apparaît au sein de la société avec l'ouverture économique.
Oui, tout à fait. Alors, ce film qui a marqué quand même un changement dans le style de Jia Zhangke, juste une toute petite parenthèse pour qu'on puisse mieux comprendre, c'est-à-dire que Jia Zhangke, forcément, comme tous les autres cinéastes, au moment où il fait partie du système, il faut bien, aujourd'hui, il y a même une autre censure en Chine, qui est la censure du marché, qui impose certaines choses pour pouvoir essayer de toucher le grand public. Donc forcément, il a déjà comme la forme, elle est quand même différente par rapport aux autres films. Elle est moins brute, si je puis dire. Mais le contenu, même si on doit chercher un tout petit peu plus hein, par rapport aux autres, est tout à fait ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et je dirais même que c'est un film qui résume vraiment toute la continuité de la problématique que Jia Zhangke a voulu essayer de montrer dans ses films dès le début. Hein, enfin, je veux dire, dès Xiaowu, Artisan Pickpocket, donc 1997, ce pouvoir de l'argent qui prend une place énorme. Alors, vous voyez cette fille qui aime quand même le travailleur des mines, mais qui va se diriger plutôt vers l'autre, qui est déjà un petit entrepreneur, et parce que elle se doute qu'elle va quand même avoir une vie plus confortable. Mais bon, après, la vie va en décider autrement. Alors, on retrouve cela, on retrouve aussi l'esprit de la Chine, de la mondialisation, donc ce qu'on avait vu dans le film The World, justement. On retrouve aussi cette jeunesse complètement désemparée, qui a perdu des repères et qui trouve dans l'argent le seul repère, le seul modérateur du paraître social. C'est quand même incroyable.
Ce qui est intéressant avec le cinéma de Jia Zhangke, Alain Wang, c'est que on voit bien comment le désir de consommation entraîne de nouvelles valeurs, l'hédonisme, mais aussi l'individualisme.
De toute façon, on entend le désir de consommation de luxe, qui est un marqueur social, surtout à cette période, et encore aujourd'hui, je dirais, parce que s'il y a autant de Chinois qui vont dans les boutiques du luxe à travers le monde, c'est que c'est un marqueur très important. Mais ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est qu'on est en 1999, si je me trompe pas, puisqu'elle parle du retour de Macao, et on est quand même encore avant, l'accession de la Chine en 2001, à l'Organisation mondiale du commerce, donc véritablement à ce boom qu'il y aura après. C'est-à-dire, on est quand même un peu en arrière, puisqu'après, après 2001, évidemment, là, on va avoir un enrichissement total des sociétés qui vont se créer dans tous les sens, et puis surtout, une arrivée massive, encore plus massive, des délocalisations d'entreprises étrangères en Chine, qui changent vraiment la donne, parce que ça leur donne véritablement une découverte de la société occidentale, européenne et américaine, à travers des gens qui vont venir travailler avec eux, avec les échanges qui va se faire. Et puis, c'est aussi un début, il dit, allons aux États-Unis, Hong Kong, c'est dépassé. Et donc là, on sent très très bien déjà qu'il y a cette volonté d'aller vers un autre monde et de changer de monde.
Oui. Avant l'entrée dans l'OMC en 2001, il y a d'abord une deuxième salve de réformes qui est lancée par Deng Xiaoping en 1992, qui correspond à une vague de privatisation. Or, Jia Zhangke s'intéresse aux conséquences de ces privatisations, notamment dans 24 City, un film au croisement de la fiction et du documentaire sorti en 2008, ainsi que dans A Touch of Sin, extrait choisi.
Il fallait moins de gens, plus d'efficacité. Il y avait trop de personnel. Et j'ai fait partie de la première charrette. Dans l'atelier, il y a eu une dizaine de licenciements. Ils nous ont offert un banquet dans un bon restaurant. Ils avaient réservé beaucoup de tables, mais on avait guère d'appétit. Plusieurs n'ont rien mangé et ont versé des larmes. Toutes pleuraient. Tout le monde prenait les mains des directeurs Cao et Yang et leur demandait « Toutes ces années, ai-je été en retard ?» Le directeur Cao « Non, jamais. Toutes ces années, me suis-je relâchée dans mon travail ?» Le directeur Cao « Non, tu étais sérieuse. Personne n'a commis d'erreur. Personne n'a été en retard. Personne ne s'est relâché. » Mais il n'avait plus besoin d'autant de personnel.
Je me suis barré sans rien dire. Coup de chance, je venais d'être payé. J'ai rien paumé. Ben alors, bosse ici. Ils recrutent en ce moment. 1200 logés nourris pour commencer. Et ça peut aller jusqu'à 2005. Il faut se former. Un stage d'une semaine, non payé. Sinon, il y a quoi d'autre comme job?
Tu peux être serveur à Changping, si tu veux.
Serveur dans quoi?
Une boîte de nuit, pour des mecs de Hong Kong et de Taïwan.
T'as de bon pour boire, mais tu bosses toute la nuit. C'est loin, cette boîte?
Non, Changping fait partie de Tongkwan.
Ce que cherche à montrer Dia Jongke dans 24 City et dans A Touch of Sin, c'est que le travail n'a plus la stabilité d'autrefois, ce n'est plus un repère, Luisa Prudentino.
Absolument, il cherche à montrer ça. Il cherche à montrer aussi que justement, les gens n'ont plus du tout les mêmes repères qu'avant. Dans cette transformation, par exemple, dans l'effondrement des immeubles ou la transformation des immeubles en usine ou autre chose, il nous montre, je crois qu'il va même plus au fond que ça. C'est-à-dire qu'il montre que non seulement les choses sont en train de changer, que ce pays est en train de gommer complètement son passé, qu'il est en train de le transformer et qu'il essaie de convaincre les gens, qui quand même perdent tous les repères, il essaie de convaincre les gens que c'est normal. Alors Dia Jongke se dit, mais qu'est-ce que c'est finalement que ce pays qui n'a plus de passé? On ne voit pas du tout d'avenir, ou de toute façon, on ne voit pas vers quel avenir on est en train d'y aller. On n'a que le présent, et le présent bouge sans cesse. C'est invivable. Mmh. C'est ça le message du film.
Ces mutations mises en scène, retranscrites dans ces films par Dia Jongke, elles sont liées à cette vague de privatisation à partir des années 90, Alain Wang.
Alors, ce qu'il faut remonter un tout petit peu, c'est se rendre compte que les années 80 jusqu'à 1989, jusqu'à Tiananmen, on est dans une période de la Chine de grande ouverture, de capacité à tout le monde justement d'entreprendre, etc. Alors, l'entreprise à ce moment-là, évidemment, il y a beaucoup de corruption parce que, comme on le savait à l'époque, les gens n'avaient pas de capitaux, donc il fallait créer du capital. Donc ça, c'est quand même le début, on va dire, du capitalisme étatique chinois. Et puis ensuite, 89 arrive et il y a un grand stop. Puisque bon, l'écrasement sur la place Tiananmen fait que le gouvernement stoppe tout. Et il faudra 92 pour qu'à nouveau Deng Xiaoping se rende à nouveau à Shenzhen. Il faut se souvenir, 78, c'est l'ouverture. 92, on relance par Shenzhen pour relancer l'économie chinoise, pour montrer que véritablement on va aller vers une ouverture. Et c'est à ce moment-là, véritablement, 92, qu'il va y avoir une émancipation assez large, on va dire, des chefs d'entreprise. Bien que, la peur quand même du parti, c'est de perdre la main. Et en 1993, on va avoir un phénomène très important qu'on appelle la troisième représentativité, qui est lancée par Jiang Zemin à l'époque, pour essayer de recapturer l'ensemble des hommes d'affaires qui commencent à créer un clan puissant, avec une capacité politique et de l'argent. Et donc, il faut les attirer dans le parti, on va les autoriser à rentrer dans le parti. Donc, le parti aussi, ça c'est une perte de repère pour tous ces gens-là. Le parti change de forme. C'est plus un parti d'ouvriers, de paysans et de militaires. On passe à un parti qui devient un parti, on va dire, où on fait du business. Hein, faut le dire carrément.
Et le régime veut garder le contrôle aussi en laissant peut-être seulement les plus petites entreprises être privatisées pour garder la main sur les plus grandes.
Alors, à mon avis, l'objectif, quand on regarde aujourd'hui ce qui est en train de se passer, c'est on perd la main sur rien. Si on regarde bien ce qui est en train de se passer en ce moment, ben en ce moment il y a Xi Jinping est à Shenzhen, hein, comme par hasard, on va dire 40 ans, c'est le 40e anniversaire de l'ouverture de la zone économique, et on sent bien qu'à travers tout ça, il y a un phénomène patriotique, puisqu'aujourd'hui on demande aux entrepreneurs d'être patriotiques et de suivre, on va dire, les directives du gouvernement chinois, Et du parti, avec quelque chose qui est quand même fondamental à partir de 2015, comme quoi le parti, surtout en ce moment avec Xi Jinping, réfléchit, c'est qu'on a réintroduit des cellules du parti dans les 33 millions d'entreprises privées qui existent en Chine à partir du moment où elles ont plus de 39 ouvriers, enfin ou employés. Donc ça veut dire que on a lâché, on a ouvert, on a laissé faire, on a laissé grossir, ça a donné une dynamique très importante à la Chine, et aujourd'hui on reprend la main. Et on réinsère les choses et on recontrôle les choses. Donc c'est ça aussi qui est assez fort de la part du parti.
Une ouverture économique sous contrôle. Sous contrôle. Luisa Prudentino, vous partagez ce point de vue?
Ah bah oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, même Dia Jongke le dit bien. Et le montre aussi, je dirais, avec sa propre vie, parce que l'une des choses qui ont été critiquées à son égard dernièrement, c'est son adhésion au parti, hein, effectivement. Et c'est comme si on disait, bah, non seulement il adhère au système, mais maintenant il adhère même au parti.
Il est désormais député depuis 2018.
Voilà, exactement. Donc, on se dit, mais... Alors, pourquoi ? Ben parce que, moi, je suis encore parmi les partisans de sa bonne foi. Je pense que je vois assez clair, un petit peu dans son, pas dans son jeu, mais enfin, un peu dans sa stratégie, c'est celle de dire, étant donné qu'on ne peut pas vraiment se soustraire à ce contrôle, autant y adhérer en essayant après de trouver une forme pour pouvoir le contrôler. Donc,
ce n'est pas le choix fait par exemple un documentariste comme Wang Bing.
Ah bah exactement. D'ailleurs, mais Wang Bing, si vous voulez, ça fait partie vraiment des très très rares maintenant.
On en parlera.
Qui reste absolument indépendant. Mais c'est quelqu'un qui essaye toujours de trouver le compromis. Même le festival qu'il a fondé lui-même à Pignau, et qui essaye de donner un petit peu la parole à des jeunes cinéastes et tout ça, rentre dans cette tactique. Donc après, il faudra voir les fruits que ça va donner.
Vous parliez de la négation du passé à Luisa Prudentino. Et ce qui est intéressant dans les films de Jia Zhangke, c'est qu'il met en scène ce désir de certains Chinois de se raccrocher au monde d'hier et à ses dirigeants, à commencer par Mao.
Ben oui. Ben d'ailleurs, ce qu'il montre, c'est que justement, alors, sans vouloir absolument faire une idéologie du passé, il montre quand même que ils avaient quand même des repères. Alors, ces repères-là, enfin, avant Deng Xiaoping, donc à une époque où les années 80, par exemple. D'ailleurs, il faut dire vraiment que Jia Zhangke a été jusqu'à présent le meilleur cinéaste en absolu à avoir peint vraiment le monde des années 80. Dans ce très beau film qui est Plateforme, qui est un film de 2000, et comme d'habitude, hein, il
passe décale
toujours. Voilà, il décale toujours. Et il montre que finalement, on sort d'une, on a un enthousiasme incroyable parce que on sort d'une époque épouvantable comme celle de la révolution culturelle. On sent que la Chine a tourné la page. On sent qu'elle va vers quelque chose. Et on a encore cet esprit d'équipe, si je puis dire, cet esprit collectif qui soutient tout cela. Et après, tout cela va s'effondrer, hélas, avec les événements de Tiananmen 1989, etc. Donc, Jia Zhangke se dit, ben oui, mais alors au moins il y avait des repères. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a que l'argent. C'est l'argent qui fait la guerre, comme on dit.
L'argent et aussi l'idée d'un passé qui perdure à travers ce barrage des Trois Gorges sur le Yangtze dans la province du Hubei, puisque le chantier gigantesque qui démarre en 1993 est présenté comme l'accomplissement d'un rêve de Mao, alors même que Jia Zhangke révèle l'ampleur des destructions et les déplacements de population dans son film Still Life, Luisa Prudentino.
Oui, tout à fait. Parce que forcément, cette centrale hydroélectrique qui est la plus puissante, la plus grande au monde, a fait déjà énormément de dégâts. Enfin, je pense qu'Alain est d'accord avec moi. Et
1,5 million de personnes déplacées de force.
Voilà. Et si on fait un petit, enfin, si on veut rester justement sur cette idée du passé, il y a aussi des villages entiers qui ont été engloutis, des vestiges archéologiques qui ont été engloutis aussi. Donc, un passé, et puis, tout simplement, on vole le passé aux gens. On vole leurs souvenirs. Et d'ailleurs, Jia Zhangke le dit bien que quand il est allé, parce que normalement, il n'avait pas du tout pensé à devoir tourner un film comme ça. Il était allé là-bas pour tourner un petit documentaire, donc. Et c'est tout. Mais c'est justement quand il est allé là-bas qu'il a pris l'ampleur des changements et qui a dit que la réalité n'était pas suffisante et qu'il fallait l'appui de la fiction pour rendre un peu le désespoir de ces gens.
Et là où on voit où peut-être que Jia Zhangke est aujourd'hui récupéré par la propagande du régime, c'est que Xi Jinping lui-même aurait assuré que Still Life était son film préféré. Qu'est-ce que ça vous inspire à la Wang, cette volonté de Jia Zhangke de mettre en scène ce choc entre le passé et la modernité qui arrive brutalement?
Alors, Moi, je serais plus, j'irais plus loin dans l'histoire. Je pense que cette recherche de modernité, elle date pas que de la période après 49. Elle est déjà dans les années, on va dire, 1920-1930, où la Chine est largement affaiblie par la colonisation occidentale. Et donc, cette volonté véritablement de rattraper l'Occident, ne serait-ce que, bon, le grand barrage lui-même, hein, dont on parlait, les premières ébauches, c'est 1911, si je me souviens bien, c'est très vieux. Et donc, la réalité, bien sûr, elle va se faire au fur et à mesure. Mais le grand barrage, c'est aussi, je dirais, quelque chose de montrer un peu sa force. C'est-à-dire, c'est qui est le grand ordinateur du grand barrage? C'est quand même Li Peng. Li Peng, le boucher de Tiananmen. Donc, le fait de l'imposer, de le mettre en place, c'est aussi un acte de force de la part du régime. Il faut aussi le voir sur le plan symbolique. Et après, les déplacements, bon, malheureusement, c'est vrai que, il y a encore d'ailleurs des déplacements, parce qu'on parle de ceux qui ont eu lieu à l'époque, mais on a vu qu'il y a eu des grandes inondations cet été, à deux reprises où le barrage a été mis véritablement en difficulté. Et on sait qu'il y a énormément de glissements de terrain autour de cette grande retenue d'eau. Hein. Je crois qu'il doit faire la surface du Luxembourg. Hein. C'est quand même pas...
Le lac artificiel fait 10 fois la taille de Paris intramuros. Oui, voilà ce que j'ai lu.
Donc c'est gigantesque. C'était 36 milliards de mètres cubes. Donc avec véritablement aussi des espaces qui ne sont pas stabilisés. Hein. C'est le problème de ce grand barrage aujourd'hui, savoir est-ce qu'il résistera encore longtemps aux intempéries.
Alors il y a ces inégalités qui se creusent au sein de la société et aussi entre les territoires, et c'était d'ailleurs une volonté de Deng Xiaoping, créer des pôles de croissance sur la côte Est qui devaient ensuite diffuser le développement dans le reste du pays.
Alors je dirais c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire en 78, quand il ouvre le pays, il va créer des sortes de laboratoires, je dirais, in vivo. C'est-à-dire par exemple du côté de Hong Kong, il va s'approcher beaucoup de la culture du capitalisme hongkongais pour permettre aux entreprises justement de Hong Kong de traverser la frontière et de s'installer, ce qui va être l'usine du monde, hein, dans un deuxième temps. Du côté du Zhejiang, par exemple, de la ville de Wenzhou, on est dans un capitalisme sauvage total. Puis dans le nord, on va faire un patchwork entre, on va dire, quelque chose de libéralisation, mais en gardant un peu de collectivisme. Et puis, c'est au bout d'une dizaine d'années, je dirais, que véritablement le régime va prendre des grandes décisions pour uniformiser l'ensemble, sur l'ensemble du territoire, une doctrine, je dirais, d'ouverture et de création d'entreprises avec des lois sur les créations d'entreprises qui vont être élaborées.
Des transformations que Jia Zhongke continue à dépeindre dans son cinéma. On continue à en parler dans un instant. Version chinoise de l'International sur France Culture. D'entendez-vous l'écho, suite de notre émission consacrée au cinéma de Jia Zhongke, le portraitiste de la Chine contemporaine. Nous sommes toujours en compagnie de Luisa Prudentino et d'Alain Wang. Alors on a parlé dans une première partie de l'ouverture économique initiée à la fin des années 70, en 1978, puis de cette étape qu'ont constitué les réformes de 1992. Troisième et peut-être dernière étape, en tout cas dans cette histoire de l'ouverture économique, Alain Wang, c'est effectivement l'entrée de la Chine dans l'OMC qui va, en décembre 2001, qui va entraîner une croissance, une accélération de la croissance.
Oui, oui, là c'est, il y a vraiment un, on va dire, un boom économique qui va être porté par les exportations chinoises dans le monde. D'ailleurs, on voit les conséquences aujourd'hui avec les déficits gigantesques que les États-Unis ou l'Europe peut avoir vis-à-vis de la Chine. Si on comptabilise, la Chine a une balance commerciale positive, on va dire, de 500 milliards par an avec l'Europe et les États-Unis, ce qui était gigantesque. Donc ça, c'est véritablement ce boom-là, mais qui est aidé aussi, évidemment, par nous, parce qu'on a quand même délocaliser toutes nos entreprises, parce que tout, il n'y a pas que les Chinois qui ont fait des profits. Je dirais les grandes entreprises étrangères, Nike, si on prend Apple, etc., ont fait d'énormes profits en fabriquant leurs produits sur place. Donc il n'y a pas, c'est une mondialisation qui bénéficie aussi des deux côtés.
Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est dans cette décennie 2000 que la Chine devient véritablement l'usine du monde à la Wang, et que non seulement elle exporte, mais qu'elle investit aussi ses capitaux à l'étranger.
Alors, elle investit en partie ses capitaux à l'étranger. J'irais, elle investit surtout beaucoup, on le voit maintenant, dans les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'elle va véritablement axer sa direction. On le voit réellement aujourd'hui avec, on va dire, la construction de grandes entreprises qui correspondent aux GAFA américains, ce qu'on appelle les BATI chinoises, Baidu, Huawei, Xiaomi, etc., qui sont aujourd'hui des majeurs sur le plan des nouvelles technologies et qui sont censés être la seconde étape, on va dire, de la Chine de demain dans ses exportations de matériel technologie à haute valeur ajoutée.
Et alors, vous l'avez dit, à la Wang, la croissance de la Chine s'accompagne de la corruption des élites. C'est l'obsession de Dahe, l'un des héros du film Touch of Sin. Dans l'extrait que vous allez entendre, il dénonce les pots de vin touchés par les dirigeants de son village et les chefs de la grosse usine locale.
Assieds-toi.
Il y a deux jours qu'il est là. On sait même pas à qui il est.
Si personne le réclame, je le récupère et je le revends.
Ah ouais? Et si le chef laisse son audit dehors, tu vas aussi la prendre peut-être, hein? Gros malin, va.
Oui, je le ferai. Son audit, elle est à nous. Sa voiture, elle est à tout le village. S'il avait pas bradé notre mine à une entreprise, jamais il aurait pu s'acheter.
Eh oui, je me disais aussi, je la connais cette caisse. C'est que les jambes qu'il y a dessus, c'est aussi les miennes, c'est ça?
T'as tout compris.
Dahai, toi t'es pas né quand il fallait. Tu serais né en temps de guerre. Toi, à tous les coups, tu finissais général.
C'est ça, fous-toi de moi, mais attends. Je vais écrire à la commission de discipline à Pékin. Dénoncer le chef et votre compte patron. Ces deux-là, ils vont aller creuser en cellule.
T'iras même pas jusqu'à Taïyuan. Le chef, il te chopera avec sa bande de caïds.
Arrête, il fera rien, j'ai la loi pour moi, je me suis renseigné, qu'est-ce que tu crois? Le chef a bradé la mine à un industriel. Il a reçu un pot de vin. Ils vont pas lui filer une médaille, non? Il va choper 20 ans de tôle, oui. Et votre patron, pareil, un magouilleur de première qui pense qu'à se faire du blé. Un pollueur qui déclare jamais le moindre accident. Moi, je vais le griller. Ils vont liquider toutes ces boîtes. Tu paries? Tu paries?
Et alors, explique-moi, cette mine, tu l'aurais. T'en ferais pas autant, hein? Dis-moi le contraire.
J'irai pas jusqu'à le jurer.
C'est une corruption omniprésente que dénonce ici, mais aussi dans nombre de ses films, Jia Zhangke, Luisa Prudentino.
Oui, oui, oui. Et en effet, il commence à dénoncer de façon assez directe le problème de la corruption dans ce film-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il le fait dès le début. C'est-à-dire, déjà, le titre n'est pas anodin, parce que Touch of Sin, c'est un petit clin d'œil à Touch of Zen, donc de King Hu, ou le film de King Hu, où il y avait les personnages qui se battaient déjà contre l'iniquité, contre le mal, contre la corruption. Et alors, ce qui veut dire Jia Zhangke là-dedans, c'est que déjà, il faut dire que c'est un film qui s'inspire des faits divers. Vraiment.
Ce sont quatre histoires, chacune absolument. Est inspirée d'un fait divers réel.
D'un fait divers réel. Donc, quatre histoires qu'il a choisies parmi les plus emblématiques, qui servent justement à montrer comment un monde est devenu totalement corrompu. Il suffit de penser, par exemple, à ce patron d'entreprise qui voyage avec son épouse, avec un Maserati, un jet privé, etc. Et donc, on comprend. Jia Zhangke dit « Je condamne la violence, bien évidemment, mais je peux comprendre quand même, en mettant en scène le personnage de Dahai, je peux comprendre d'où cette violence vient. » Parce que quand on voit toutes ces inégalités, et quand on voit qu'il y en a qui vraiment ont vraiment beaucoup de mal dans cette Chine contemporaine pour vivre, qui essaie de survivre même, eh bien là on comprend.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que Dahai, parce qu'on prononce Dahai et pas Dahej, effectivement va finalement décider de faire justice lui-même. Racontez-nous, Luisa Prudentino.
Il va décider de faire justice lui-même et c'est ce qui a coincé un peu les choses vis-à-vis de la censure, entre autres. Hein, parce que si d'une part Jia Zhangke espérait que parler de la corruption, qui est tout à fait un cheval de bataille, on va dire, du gouvernement, ça pouvait aider le film à ne pas avoir de problème. C'est vrai que, bon, c'est quand même, on touche un argument dont on ne voudrait pas parler, vous voyez, donc parce qu'officiellement, normalement, ça ne devrait pas vraiment exister. Et donc, c'est vrai que le fait de dire que la situation est grave à un point que les gens ne font plus confiance à la justice et ils préfèrent la faire par eux-mêmes, c'est quand même quelque chose de très très grave. Ça veut dire qu'on n'a plus de confiance en le parti pour faire ça.
Alan Wang, effectivement, Luisa Prudentino fait référence à cette campagne, cette vaste campagne contre la corruption lancée par Xi Jinping en 2013 contre les tigres et les mouches. Quels effets a eu cette campagne selon vous ?
Alors les effets, on peut dire qu'elle dure encore cette campagne, elle n'est pas terminée. Je pense qu'il faut la décomposer de deux façons. Il y a une partie de la campagne qui est une campagne de purge, on va dire, contre les ennemis, on va dire, de Xi Jinping, au moins de son clan. Donc on élimine les gens qui peuvent vous être opposés. Et ça, tous les présidents successifs qui sont arrivés au pouvoir en Chine l'ont fait, hein, Deng Xiaoping, Hu Jintao, Jiang Zemin, etc. Et puis on a une corruption latente qui est là dans le business, mais qui est aux racines même de la création des entreprises chinoises. Toujours se souvenir que, à l'origine, pour créer une entreprise, on avait toujours quelqu'un qui gardait. Enfin, c'était souvent le mari et la femme. Le mari faisait créer un business, la femme restait dans l'administration, et à travers ce lien qu'ils avaient entre les deux, ils obtenaient toutes les autorisations possibles pour monter leur business, un terrain, etc., etc. Donc, je veux dire, il y a toujours eu cette corruption, elle est profonde, je veux dire. Et on le voit très bien, la campagne contre la corruption Xi Jinping, si elle était efficace, il y a un indice qui paraît par une association qui est à Singapour, une intervention de perception de la corruption qui est annuelle, et on voit très très bien que la Chine ne remonte pas dans le classement, c'est-à-dire elle reste toujours au niveau de l'Inde, 79e, 80e place, et il n'y a pas de montée, je dirais. Donc s'il y avait quelque chose d'efficace, ça le serait. On peut observer Taïwan, qui est à la 23e place, Hong Kong, qui était au-dessus encore, mais bon, avec le changement à Hong Kong aujourd'hui, on verra ce qui va se passer. Mais on voit très très bien que la volonté d'aller contre la corruption, elle est quand même modérée, je dirais, de la part du pouvoir.
Donc une corruption endémique et un enrichissement global de la population chinoise. On l'a vu avec, bien sûr, de nombreuses disparités, mais un enrichissement tout de même qui entraîne une mise à distance de la culture chinoise. C'est ce que dit Jia Zhangke, Luisa Prudentino. Les plus riches s'américanisent, comme dans son film « Au-delà des montagnes ».
Oui, mais parce que les plus riches peuvent avoir accès à des choses dont les autres, auxquelles les autres ne peuvent même pas songer. Donc, ce mythe un tout petit peu de l'Amérique n'est pas nouveau, hein, et donc il a même été traité dans d'autres films de la part d'autres cinéastes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui appartient surtout aux jeunes. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui peut-être est mis aussi un peu, je ne sais pas si c'est encore vraiment comme ça, vous voyez, c'est-à-dire qu'avec ce qui se passe dernièrement entre les États-Unis et la Chine, et donc ce nationalisme vers lequel Xi Jinping amène le pays, ça peut être changé. Mais dans tous les cas, ça a été une constante jusqu'aux années 2000, ça c'est sûr.
Est-ce que le personnage de l'entrepreneur ambitieux qui existe, qui est créé par Jia Zhangke dans Au-delà des montagnes, appellerait aujourd'hui encore son fils dollar, Alan Wang? Ou est-ce que ça s'est dépassé?
Je crois que ce qu'on disait un petit peu au début, c'est qu'ils sont tous un peu perdus. Donc, qu'il appelle dollar ou euro, c'est fort possible. Mais dans ce cas-là, on est peut-être vis-à-vis de personnages qui, comme beaucoup d'ailleurs, quittent la Chine et vont habiter dans un autre pays, c'est-à-dire s'installent.
C'est le cas de ce personnage. Il s'installe en Australie et il ne parle plus le chinois.
Il parle plus chinois. Je pense que son fils va être complètement déconnecté par rapport à la Chine. Donc, on est dans une rupture très violente. Ben, si on regarde simplement ces derniers temps, c'est-à-dire depuis un an, on a des évasions massives de capitaux de la Chine. Ça, c'est quand même les gens les plus riches. Et quand on regarde de l'autre côté les investissements que les Chinois ont fait dans l'immobilier aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est parmi les plus gros investisseurs dans l'immobilier. Quand on investit là-dedans, c'est aussi pour habiter. C'est pas simplement comme ça pour faire un investissement.
Et d'ailleurs, d'ailleurs, le personnage, pour faire un peu un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, et part là en Australie, notamment pour parce qu'il sait très bien qu'il a été impliqué dans une affaire de corruption. Donc, le plus tôt il quitte la Chine, le mieux c'est. Alors, ceux qui sont les plus fortunés, ils essayent d'échapper à cela. Et ben, les autres, ils vont trinquer peut-être pour tout le reste.
Mais vous parliez de cette ambivalence, d'une ambivalence dans le rapport aujourd'hui des jeunes Chinois aux valeurs ou à la culture occidentale plus largement.
Oui, oui et non, je dirais, parce que moi je pense que cette ambivalence-là était une réalité jusqu'à il y a 5 ans. Aujourd'hui, je pense que les choses sont beaucoup plus nettes, dans le sens où soit vous avez des gens qui sont presque des vrais dissidents, et donc qui condamnent et qu'ils essayent, qui condamnent la politique actuelle et qu'ils essayent de voir en Occident ce que l'Occident peut leur offrir, mais en termes surtout intellectuels, hein, dans le sens large du terme, soit on est, comme je vous disais avant, dans un nationalisme, et là, dans ce cas-là, forcément, il n'y a plus de place pour les États-Unis, même pas pour l'imaginaire.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le contrat tacite passé avec le régime, cet enrichissement contre une absence de liberté politique, et ce contrat, il doit nécessairement évoluer à mesure que le pays s'enrichit, que le pouvoir d'achat d'un certain nombre de Chinois, d'une classe moyenne qui s'est formée depuis un certain temps maintenant, augmente, Alain Wang.
C'était la base du consensus de Pékin après Tiananmen, c'est-à-dire on a dit à tout le monde, vous pouvez faire du business, il n'y a pas de problème, par contre, ne touchez pas à la politique. Et au fur et à mesure du temps maintenant, comme je disais tout à l'heure, on retombe dans une situation où le gouvernement est en train de reprendre la main sur le plan économique. La mise en place, par exemple, du contrôle social, on en parle beaucoup pour les individus, mais ce contrôle social, il est aussi mis en place pour les entreprises. C'est-à-dire que ça permet véritablement à l'État de noter les entreprises entre les fautes graves qu'ils font, les fautes moyennement graves, les fautes très graves. Et à partir de ce moment-là, les entreprises sont sanctionnées. C'est-à-dire, par exemple, vous avez plus le droit d'aller sur des appels d'offres gouvernementaux, vous perdez votre licence de travail, vous perdez votre permis de conduire, etc., etc. Donc c'est grave pour des entreprises. Donc de plus en plus, on a tous ces entrepreneurs qui se sentent un peu pris au piège. C'est-à-dire que le piège est en train de se refermer sur eux et ils se disent comment on va en sortir. Donc ce qui donne forcément de l'autre côté, certainement, parce que là, il faudrait être en Chine dans le giron, je dirais, des entreprises. Il doit y avoir énormément de contestations. Les gens ont peur, je crois, aujourd'hui.
Vous diriez que ce contrôle se renforce aussi parce qu'on assiste depuis un certain nombre d'années à une montée des revendications, non pas politiques, mais sur le plan des inégalités, de la santé, de la sécurité.
Ça a été repris en main. On a eu toute une période, on va dire la période de 2003-2013, avant l'arrivée de Xi Jinping, où véritablement on avait une montée de la société civile, avec des revendications qu'on voyait très bien sur Sina Weibo, qui est un peu le Twitter chinois, des hommes d'affaires, hein, qui avaient des comptes de, je sais pas, de plusieurs millions d'abonnés, etc. Donc il y avait des messages qui passaient, de la contestation, et puis depuis l'arrivée de Xi Jinping, tout ça a été repris en main, tout ça est en train d'être cadré. Donc on passe dans une société de surveillance technologique un peu orwellienne en Chine. C'est ça qu'on n'arrive pas à percevoir d'ici. Et donc, le fait de faire quelque chose, de dire quelque chose, immédiatement, on peut avoir des sanctions immédiates qui arrivent.
Je voudrais vous faire entendre un dernier extrait, puisque certains quittent la campagne pour chercher du travail en ville. C'est le massif phénomène d'urbanisation auquel la Chine a assisté pendant plusieurs décennies. Mais d'autres, comme la jeune Xiao Yu, font le trajet inverse. Dans cet extrait, c'est sa mère qui parle en premier, un extrait de A Touch of Sin.
Tu sais y faire là-bas. Il y a du travail. C'est pas ici que tu vas en trouver.
J'aime mieux rester. Quand est-ce que l'aéroport sera fini?
Ça avance. Ils font d'abord la piste. Quand la piste sera finie, les ouvriers vont s'en aller. Je partirai aussi.
Maman? À Yichang, j'ai vu mon père.
Dis rien, je veux pas entendre.
Un extrait d'une histoire de ce film, Touch of Sin, une autre histoire inspirée lui aussi d'un fait divers. Xiaoyu est hôtesse d'accueil dans le film, dans un sauna, et elle est obligée de fuir après avoir tué à coups de couteau un riche client qui a tenté de la violer. C'est une histoire, Luisa Prudentino, qui avait défrayé la chronique en Chine en 2009.
Oui, tout à fait. Et ça fait partie justement de ces histoires qui nous font comprendre aussi que dans ce cas-là, la Chine a vraiment est atterrie vraiment dans le domaine de la mondialisation, parce que bon, ce sont des histoires qu'on peut voir aussi chez nous, peut-être pas avec la même violence ou la même chose, mais enfin, ça nous fait comprendre effectivement à quel point les tensions sociales sont arrivées en Chine. Et donc, Jia Jiangke, quand on l'a interrogé justement, en particulier sur cette histoire-là, c'est là qu'il a dit, comme les personnages de Touch of Zen qui étaient complètement imaginaires, on est arrivé vraiment dans la réalité à quelque chose de pareil. Alors, on sent qu'au fond, ce sont des gens tout à fait normal, qui n'avaient aucune intention homicide et que la société, tout le reste, les a poussés vers cela. Donc on ne peut pas, la violence reste toujours quelque chose à condamner, mais on peut tout à fait comprendre qu'on peut arriver à un point où on n'en peut plus. Et que c'est une question vraiment de survie.
Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a inspiré cette histoire, son acte a finalement été requalifié en homicide involontaire sous la pression populaire, Luisa Prudentino.
Absolument. Ça a été quelque chose d'ailleurs d'assez rare en Chine, mais qui commence quand même, qui nous fait de temps en temps avoir quelques espoirs. Hein. Je ne sais pas Alain ce qu'il en pense, mais c'est vrai qu'il y a eu révolte dans ce cas-là. Et je pense aussi que le film, après, a un petit peu aidé à sensibiliser l'opinion publique sur certaines choses. Parce qu'il y a toujours une couche de la population qui se rend compte avant que les autres, ou alors qui ose dénoncer certaines choses que d'autres connaissent, mais sur lesquelles se taisent. Et donc là, le fait qu'il y a finalement une prise de conscience et une volonté de s'y opposer, eh ben, ça fait partie quand même des choses qui nous font quand même bien espérer encore.
Jia Zhangke parvient très bien à rendre compte de la brutalité de cette rencontre entre des Chinois qui ont réussi à s'enrichir, à avoir une position sociale, et cette jeune fille qui est une migrante et qui doit gagner sa vie en étant masseuse et qui a beaucoup plus de difficultés à trouver sa place.
Le problème de la migration en Chine est un des problèmes majeurs, je dirais, de cette société qui a complètement éclaté. Il faut se représenter quand même qu'il y a 300 millions de gens qui se sont déplacés des campagnes vers les villes, que les villes aujourd'hui c'est 56% de la population, en 1978 c'était 20% seulement. Donc il y a un phénomène là qui est en train de faire bouger les fondamentaux de la société chinoise, et donc aussi avec les gens des villes, qui souvent sont quand même les plus riches, c'est eux qui ont tiré un peu leur épingle du jeu, qui regardent ces gens qui arrivent de la campagne comme souvent étant des gens, on va dire, de basse extraction, se disent meiyouwen, sans civilisation, non civilisé, on va dire. Et donc on a forcément des rencontres comme ça entre cette jeune fille et cet homme qui pensait certainement avoir tout le pouvoir de faire ce qu'il voulait d'elle.
Absolument.
Voilà. Et ça c'est vraiment un problème. En Chine, on le rencontre ailleurs, hein. Mais c'est une scène terrible.
Et alors, face à la montée des inégalités, les autorités répondent par le concept d'harmonie sociale qui envahit les discours et les médias depuis les années 2000, Luisa Prudentino.
Oui, mais alors, heureusement, les cinéastes ne sont pas très dupes. Hein. C'est-à-dire que cet argument-là, il n'est pas trop repris. Bon, sauf dans un cinéma qui est beaucoup plus dans le consensus, qui est qu'on pourrait qualifier de nouvelle propagande, hein, parce que c'est aussi une certaine propagande idéologique. Mais c'est un argument qui n'intéresse pas trop les cinéastes, parce que ils y croient, enfin, en tant qu'intellectuel dans le sens traditionnel du terme, de l'avant-garde de la société, ils y croient pas du tout.
C'est bien sûr un discours de propagande, puisque la bipolarisation de la société se poursuit entre les gagnants et les laissés pour compte. Et puis, il y a aussi les écarts régionaux et entre les villes qui continuent également de se creuser malgré une volonté de décentralisation orchestrée par le pouvoir.
Oui, de toute façon, ça, c'est depuis le début, en fonction, on va dire, du développement économique de certaines régions, on a eu des écarts très très importants qui se sont faits. Actuellement, le PIB, par exemple, si vous prenez la région de Shenzhen, du côté canton, ce qu'on va appeler la nouvelle Californie chinoise, la Grande Bay Area, on est sur des niveaux, je dirais, de PIB qui sont proches de Hong Kong. Hong Kong est déjà très développé, on va dire, par rapport à l'ensemble des pays du monde. Donc, et puis si on va vers le Xinjiang ou vers le Tibet, on va avoir des PIB extrêmement faibles. Donc ces différences, elles vont continuer à perdurer parce que la Chine est aussi un continent. Hein, je veux dire, parce que souvent on a toujours l'impression, on parle de la Chine comme si c'était la France. Bon, il faut parler de la Chine comme si c'était l'Europe. Et donc avec toutes les diversités et toutes les complexités aussi sur le plan économique que ça peut poser en fonction des endroits et donc de la modernisation.
Un dernier mot, plus largement sur le cinéma chinois indépendant. Le président Xi Jinping veut faire du cinéma chinois une industrie capable de rivaliser avec Hollywood. Ce sont donc les blockbusters qui sont aujourd'hui privilégiés au détriment du cinéma indépendant, Luisa Prudentino.
Oh oui, alors ça, c'est un grand sujet qui mériterait une émission à part. Mais c'est vrai que malheureusement, depuis le moment où, de toute façon, le cinéma a été qualifié par les politiques d'industrie culturelle, on a tout de suite compris la chanson. Donc on a compris qu'il fallait rivaliser avec Hollywood et aujourd'hui, c'est même plus fort que ça, c'est-à-dire que c'est une volonté absolument géopolitique, parce que par le soft power chinois, on fait comprendre, et donc par le cinéma, qui est un vecteur extraordinaire, on fait comprendre que la Chine a une position hégémonique très très forte. Et non seulement veut affirmer sa puissance dans le domaine cinématographique, mais veut devenir la première puissance tout court.
Et en même temps, ça n'empêche pas le cinéma indépendant de se développer en Chine. Peut-être que vous pourriez nous faire éventuellement quelques recommandations, Luisa Prudentino, au-delà de Jia Zhangke, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui.
Alors, malheureusement, c'est vraiment un mauvais moment pour le cinéma indépendant, parce que là, on est réduit, tous les petits festivals qui déjà avaient beaucoup de mal à tout simplement à exister, ils ont été fermé, tout
comme
simplement.
Comme en France, le coronavirus fait beaucoup de mal à la culture.
Voilà. Disons que là, au moins ici, c'est un prétexte en or, hein, le coronavirus, qui a été repris aussi par les Chinois, je veux dire, derrièrement. Malheureusement, ce malaise a commencé bien avant, donc c'est fermé. Alors là, les cinéastes indépendants, on ne parle, au point, si vous voulez, qu'on ne parle même plus de cinéma indépendant, on parle d'un cinéma d'auteur qui essaye très péniblement de s'affirmer vis-à-vis d'un cinéma de blockbuster, d'un cinéma mainstream qui désormais prend toute la place et pour cause, parce qu'il est soutenu par le gouvernement. Donc, pour revenir à Jia Zhangke, est-ce que son festival vraiment veut être une façon de soutenir un cinéma d'auteur? Ça, l'avenir va nous le dire. Mais les temps sont très durs, difficiles.
Un grand merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir le cinéma de Jia Zhangke, miroir des bouleversements économiques de la Chine, comme on l'a vu tout au long de cette émission. Toutes les références des films dont on a diffusé des extraits sont à retrouver sur la page de l'émission. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'heure du journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Les plus riches s'enrichissent et l'investissement tarde. Ce sont les conclusions de plusieurs rapports sur la suppression de l'ISF et l'instauration d'une flat tax en 2018. Deux des principales mesures d'Emmanuel Macron en faveur du capital. Alors, est-ce que c'est déjà l'heure des comptes?
Eh bien, en tout cas, les économistes aiment passer les jeunes réformes sur le grill, en l'occurrence celle de l'impôt de solidarité sur la fortune devenu impôt sur la fortune immobilière et celle donc de la flat tax, la fiscalité sur le capital ramenée à 30% en clair sur les revenus du capital, donc les dividendes. Or, l'avalanche de notes et de rapports publiés depuis 15 jours, dont ceux d'organismes différents rattachés à Matignon, France Stratégie et le Conseil d'analyse économique, vont dans le même sens. Les deux réformes ont bien logiquement profité aux foyers les plus riches, mais aucun ne peut se prononcer sur leur efficacité économique. Et c'est la fin de ma chronique.
Non, c'est le début de beaucoup d'interprétations, Xavier.
Et oui, selon la priorité qu'on assigne à la réforme, compétitivité ou justice fiscale, elles sont radicalement différentes, ces interprétations. Il y a ceux qui s'attachent à compter les fumerolles blanches, le relatif recentrage de la France dans la moyenne des prélèvements OCDE pour le capital, la diminution de l'exil fiscal, donc un signe de compétitivité retrouvée. Sur Europe 1, Nicolas Barré jugeait donc le bilan nettement positif, s'émerveillant, comme Dominique Seux sur France Inter, de la division par 5 du nombre d'exilés fiscaux en 2013, époque de la dernière réforme sous François Hollande, entre 2013 donc et 2019. Et ceux qui gardent les yeux rivés donc sur la hausse spectaculaire des dividendes, dont les deux tiers vont aux 0,1% des foyers les plus riches, l'ultra-concentration du capital, et c'est donc pris comme un signe funeste d'un accroissement des inégalités. Pour Le Monde, par exemple, ce mouvement de concentration du capital est incompréhensible pour l'opinion. Un débat, on le voit, sur les symboles, donc à défaut d'une évaluation.
Ce qui est difficile à connaître, Xavier, c'est l'effet de ces réformes sur les comportements et donc sur l'investissement.
Et oui, favoriser la croissance de notre tissu d'entreprise, stimuler l'investissement et l'innovation, c'était les objectifs du gouvernement en 2018 avec ces deux réformes. Mais cette fois, comme en 2019, le rapport du comité d'évaluation de la réforme de la fiscalité du capital est très prudent. La réduction de l'exil fiscal due à l'ex-ISF est ténue. Quelques centaines de personnes, c'est dans l'épaisseur des traits, commentait le directeur principal de l'OFCE, Xavier Thimbault. D'ailleurs, le nombre de contribuables lui-même est passé de 360 000 foyers payant l'ISF avant 2018 à 130 000 à devoir s'acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière après. Et le comité prévient donc, la baisse observée des départs pourrait n'être qu'un effet mécanique de comptage. Quant à la finalité de la réforme de la flat tax, réorienter l'épargne vers les entreprises, le rapport montre qu'elle a bien libéré les dividendes comme des lévriers en les faisant bondir de 62% entre 2017 et 2018. Mais le tissu des entreprises n'est pas mieux irrigué pour autant. Ce sont les placements financiers qui ont grimpé en 2019 de 95 à 143 milliards quand ceux des sociétés non financières étaient au plus bas. Aucun effet significatif sur l'investissement des entreprises, conclut le comité. Échec politique, dit sèchement Le Monde. Plus positivement, la flèche est lancée, on pourrait dire, mais la cible n'est pas encore atteinte.
Et le problème, dit en somme le comité d'évaluation, c'est qu'il est trop tôt pour faire une évaluation, c'est kafkaïen.
Et oui, pour l'instant, l'étude des grandes variables macroéconomiques, l'investissement, les flux de placements financiers des ménages, ne suffira pas pour conclure sur l'effet réel de ces réformes sur l'économie, dit le comité. Il manque des données sociologiques plus fines et de toute façon, il faudrait 5 à 10 ans supplémentaires, prévient son président. Sur le plan strictement budgétaire, les estimations du manque à gagner des deux réformes ont, c'est vrai, été revues à la baisse de 5,1 à 4 milliards et demi d'euros, mais pour le dynamisme économique, le demi-point de PIB et les 50 000 emplois escomptés par le gouvernement, il reste insaisissable, rappelle l'usine nouvelle.
Merci beaucoup Xavier, et votre chronique est à retrouver sur franceculture.fr et en podcast. On vous retrouve demain. dernier mot, Xavier, puisque Emmanuel Macron a bien rompu avec une partie de l'histoire fiscale française.
Oui, il fallait le dire, en se réalignant sur les pays de l'OCDE, le président a supprimé l'ISF trentenaire et politiquement chargé. Avec la flat tax, il a symboliquement annulé l'effet de la taxation du capital mise en place par François Hollande en 2013. Miroir inversé, dit Boursorama. Et ce faisant, explique Mathieu Bochard dans son livre « Emmanuel Macron et l'imposition de la richesse » publié en mars, le chef de l'État a rompu à la fois avec le principe de progressivité de l'impôt déjà miné par les niches fiscales et aussi avec la stratégie de réforme discrète, comme il l'appelle, tout bord confondu qu'il avait permise. Mais on voit que 2 ans après, une réforme économiquement incertaine, continue Mathieu Bochard, il se trouve en quelque sorte au milieu du gué et la colonne de secours des ex-exilés fiscaux tarde à se montrer. Plutôt que Kafka, Tiphaine, le père Ubu, puisque l'histoire du Bureau, on le rappelle, montre le destin tragique des politiques fiscales et de leurs promoteurs. À la fin, il ne reste plus qu'à enfourcher le cheval à finance pour se battre ou s'enfuir.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Toutes mes excuses pour cette erreur. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan à la réalisation, Philippe Baudouin à la technique aujourd'hui, Alex Dang. Demain, nous suivrons les pas du réalisateur Wang Bing, portraitiste des ouvriers chinois. Nous serons en compagnie des sinologues Nathalie Bitinger et Antoine Kernen. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.